France Inter.
Merci beaucoup. Le prochain flash, ce sera dans une heure à 15h sur France Inter.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Racine carrée de 4.
C'est désagréable, hein ? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des qu'à faire.
Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie.
Côte de bœuf, poulet farci, au samoual, gigot d'agneau, jambon blanc, les produits carnés font partie de nos menus depuis longtemps. L'homme est devenu omnivore il y a plus de 3 millions d'années. C'est ce que va nous raconter Marilène Patoumatis. Marilène Patoumatis est préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Muséum National d'Histoire Naturelle. Qui étaient les plus grands carnivores? Comment la consommation de viande nous a fait évoluer? Serions-nous ce que nous sommes si nos ancêtres n'avaient consommé ni mammouth, ni aurochs, ni bisons? Parce que nous commençons à porter un autre regard sur les animaux, parce que la viande a parfois mauvaise presse, nous interrogerons en seconde partie la philosophe Florence Burga. Elle ne mange plus de viande depuis son adolescence. Elle nous expliquera pourquoi. Dans le cadre de cette série consacrée au rapport que nous entretenons avec les animaux, nous parlons aujourd'hui de la viande, de la bidoche, de la barbaque, de la chair, de la carne.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Marilène Patoumatis.
Bonjour.
Alors, selon les dernières études, il y a plus de 3 millions d'années, nos lointains ancêtres sont devenus omnivores. Ça fait donc bien longtemps qu'on mange de la viande.
Oui, on mange de la viande même depuis plus longtemps que ça, peut-être déjà dès les premiers australopithèques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons des méthodes qui permettent de le savoir, notamment avec les méthodes biogéochimiques, c'est-à-dire qu'il y a des marqueurs isotopiques du carbone, de l'azote, qui nous permettent justement de constater que ces australopithèques qu'on pensait tous végétariens, eh ben, en réalité, étaient déjà omnivores.
Les australopithèques, c'était il y a combien de temps et quels sont les sites où on a retrouvé des traces?
Alors, les australopithèques, pour les plus anciens, parce qu'il y en a énormément d'espèces, les plus anciens, on peut dire, vers 4 millions et demi d'années. Et on les trouve surtout en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Et là, des compagnons, si j'ose dire, qu'on appelle les paranthropes, donc des cousins, qui eux aussi sont importants parce que c'est eux qui ont montré cette alimentation diversifiée, c'est-à-dire déjà avec des protéines animales.
Comment est-ce que ces animaux étaient débités? Est-ce que c'était des animaux qui étaient chassés? Est-ce que c'était des animaux qui étaient trouvés morts?
Alors, on pense qu'au départ, pour les plus anciens, notamment ces fameux paranthropes et australopithèques, c'était plutôt une consommation d'insectes, donc qui amenaient ces protéines animales. Et puis, assez rapidement, donc à peu près vers 3 millions d'années, on s'aperçoit qu'il y a déjà la consommation de petits mammifères, de la viande vraiment de petits mammifères. Et cette viande, elle est probablement obtenue, on pense maintenant d'après les analyses des traces laissées sur les os, par charognage. Donc voilà, ils profitent des carcasses d'animaux qui viennent d'être tués fraîchement par un autre prédateur. Et donc, ils vont prélever cette viande pour se nourrir.
D'après vous, cette viande a représenté quelque chose de très important pour les humains. Cette viande donnait quoi? Des protéines, du fer, du sel, de la graisse animale, des lipides?
L'apport essentiel au départ, c'est probablement l'apport de beaucoup de calories. C'est-à-dire que c'était une nourriture beaucoup plus énergétique, si j'ose dire, que les plantes. Et c'est ça surtout, c'est l'apport de ces calories qui permettent le développement probablement du cerveau, par exemple, qui est un grand consommateur d'énergie.
Je vous propose d'écouter le point de vue du médecin nutritionniste Jacques Fricker, chercheur en nutrition humaine, au micro de Caroline Prota.
La viande, les viandes, pourrait-on dire d'ailleurs, apportent avant tout des protéines de très bonne qualité qui sont importantes pour le renouvellement des protéines du corps, notamment au niveau des muscles, des organes, des globules rouges ou du cerveau par exemple. Les viandes apportent également des minéraux, des oligo-éléments importants, notamment le fer et le zinc. Le fer intervient pour les globules rouges, le zinc intervient au niveau des processus d'antivieillissement, contre-oxydation. Et par exemple, quand on manque de zinc, on va avoir des problèmes de peau et des problèmes également de perte de cheveux. Et quand on manque de fer, on va avoir une anémie, une grande fatigue et... La viande apporte aussi des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12, comme tous les produits d'origine animale d'ailleurs, extrêmement important pour les globules rouges, là aussi, et pour le cerveau, pour la mémoire. La viande apporte aussi des graisses, plus ou moins selon les viandes. Il y a des viandes qui sont grasses, d'autres moins. Alors, on croit parfois que les viandes blanches ne sont pas grasses et les viandes rouges grasses. En fait, c'est variable. Le roast beef est une viande rouge, mais qui n'est pas grasse. En revanche, l'entrecôte est plus grasse. La consommation de viande, et surtout la consommation globale de produits d'origine animale, a servi notre évolution, notamment l'évolution du cerveau. Et nous avons intérêt à conserver ces produits d'origine animale, viande, poisson, œufs, produits laitiers, pour continuer à être des humains. L'homme est omnivore, et il faut le rester.
Marilène Patoumatis, qu'est-ce qu'on constate sur les fossiles de nos lointains ancêtres qui consommaient de la viande ?
C'est-à-dire qu'on peut observer, par exemple, s'il y a des stress alimentaires. C'est-à-dire que si vous avez une carence en calcium lors de votre croissance, hein, quand vous êtes un jeune individu, on peut le percevoir sur l'émail des dents, par exemple, avec ce qu'on appelle l'hypoplasie, c'est-à-dire l'émail est beaucoup plus fine. Ou on peut le voir sur les os, avec ce qu'on appelle les lignes de Harris, qui montrent l'arrêt de croissance. Donc on peut mettre comme ça en évidence s'il y a eu, à un moment donné, une pénurie de certains nutriments, de certains aliments. Et on voit qu'il y a vraiment un manque important, à certaines périodes, du calcium. Donc c'est vraiment pour nous un nutriment qui était assez rare et compliqué à trouver probablement pour ces anciens hominidés. Et ça, c'est quelque chose qui peut montrer aussi qu'il y avait parfois une recherche justement d'animaux qui avaient ces éléments plus riches, comme le calcium, en abattant par exemple des femelles gravides ou des femelles allaitantes pour récupérer sur le placenta ou justement sur ces femelles qui allaitent, de récupérer le calcium à travers le lait.
Qu'est-ce qu'ils mangeaient en dehors de la viande, nos ancêtres, des végétaux ?
Oui, alors déjà, il n'y a pas que la viande, puisque un animal nous permet aussi d'avoir la graisse. Et ça, c'était extrêmement important. Surtout que pendant une période, nos ancêtres, plus proches de nous que les Australopithèques, notamment en Europe, vont vivre dans des périodes froides, où on a besoin notamment de lipides, c'est-à-dire de graisse. Et ça, les animaux sont riches en graisse, surtout les grands mammifères. Donc, on va récolter cette graisse. La viande, bien sûr, mais aussi, et on voit que c'est systématique, ils vont casser les os pour prendre la moelle. Et la moelle, c'est très nutritif, c'est très riche en beaucoup de nutriments. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate, c'est ils cassent tous les os pour prendre la moelle.
Vous avez dit tout à l'heure que grâce à la viande, notre cerveau a évolué. Racontez-nous.
Oui, ce qui est intéressant de voir, et c'est un petit peu un débat entre l'œuf et la peau, c'est-à-dire qu'on voit à un moment donné que le cerveau va augmenter en fonction de l'évolution des espèces qui va mener jusqu'à nous. Et on part vers 350-400 chez les Australopithèques, et pour arriver à nous à 1500-1550 cm3. Et donc on voit qu'en même temps, que les sites s'enrichissent en ossements d'animaux, c'est-à-dire qu'on voit que dans les sites, on a non seulement des outils, puis d'un seul coup, on va avoir des os d'animaux, de grands mammifères, eh ben, on a le cerveau qui va augmenter de ces populations. Donc, on a une corrélation intéressante entre la consommation de plus en plus importante de viande, notamment de viande de mammifères, et l'accroissement du cerveau. Et on a un bond très important vers à peu près 1 million d'années, où on a chez les Homo ergaster, qui sont encore en Afrique, donc qui ont évolué à partir de ces souches anciennes d'Australopithèque, on a vraiment un bond puisqu'on va passer de 750 cm3 à 1050 cm3. Donc une augmentation importante. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que les outils se diversifient, qu'il y a plus d'ossements justement de ces mammifères. Alors les mammifères, c'est quoi ? Ce sont des gazelles, ce sont des antilopes, voilà, tous ces animaux qui vivent en Afrique parce qu'ils sont encore en Afrique. Et là, c'est intéressant de voir cette corrélation.
Vous dites les outils se diversifient, qu'est-ce qu'on a retrouvé ?
Alors on a, par exemple, justement, au départ, on a plutôt des outils assez frustes, hein, des galets taillés que l'on trouve dans les rivières et qui sont retouchés sur une ou deux faces. Puis après, on va avoir les premiers couteaux qui vont se diversifier pour finir avec les Néandertaliens et les hommes modernes, avec une panoplie extrêmement importante, des racloirs, des grattoirs, enfin, tout un tas d'outils.
Tout ça en pierre, évidemment.
Tout ça en pierre, bien sûr, mais aussi avec les sapiens, on va avoir beaucoup sur os aussi.
Alors, vous avez parlé de l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal mangeait de la viande.
Tout à fait. Là aussi, on a, depuis quelques années, maintenant, on connaît bien leur alimentation, de même que celle des premiers Homo sapiens. Parce qu'on a des études, là aussi, qui permettent de voir ça. Ces études, ces fameuses études biogéochimiques, donc, qui nous permettent de voir que leur alimentation était très carnée. Mais surprise, ces dernières années, puisqu'on avait un problème, c'est est-ce qu'ils mangeaient des végétaux ? Parce que les végétaux ne laissent pas de traces fossiles, parce que les pollens, ça nous dit l'environnement, mais ça ne nous dit pas s'ils ont été consommés, oui. Les pollens des plantes donc, récoltées. Donc on se dit, on ne savait pas bien, on dit peut-être, parce que c'est quand même important d'avoir une alimentation un peu diversifiée, mais on ne pouvait pas le montrer. Et là, on a pu le montrer, parce qu'on a étudié notamment le tartre dentaire, et on a constaté qu'ils consommaient des végétaux. Et des fois, dans des sites espagnols, même d'une façon importante. Et ces végétaux, non seulement étaient mangés crus, c'était beaucoup de graminées, hein, c'est des plantes, l'ancêtre des céréales, mais aussi qu'elles étaient cuites. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit d'un seul coup que ces hommes qu'on voyait un petit peu comme étant des grands mangeurs de viande, de barbac saignante rouge, mm-hmm. Mais pas du tout, ils peuvent aussi manger des galettes de graminées ou des bouillies de graminées. Donc là, on a changé en plus aussi la vision de ces peuples-là. Donc, dès le départ, là aussi, dans ces sociétés néandertaliennes et des premiers hommes modernes, on a des plantes. Et ça, c'était vraiment pour nous très important de montrer qu'il y avait une mixité quand même. C'était vraiment des omnivores, même s'ils sont quand même très, très carnivores.
Et vous avez donc découvert que les Néandertaliens avaient des recettes. C'est ce que vous venez de nous expliquer.
Oui, vous vous rendez compte, on a même trouvé des choses formidables. Par exemple, les fameux Néandertaliens de Spy, très célèbres dans la cime de Belgique, ben, ils ont même consommé des choses que je ne savais pas que ça se trouvait, des rhizomes des nénuphars. Voilà, vous imaginez. Donc, on a une grande variété de graminées, on a ces rhizomes, on a des tubercules. Enfin bon, c'est quand même très diversifié. Et ça, pour nous, ça a été une donnée extrêmement importante, parce que ça montre aussi que ce qu'on a pu dire sur la disparition des Néandertaliens, qu'elle est une alimentation trop basée sur la viande uniquement et tout, pas assez d'oméga 3 et tout ça, c'est pas vrai quoi.
Donc l'augmentation de l'alimentation carnée, ça a commencé avec les Néandertaliens ?
Non, je pense que ça a commencé déjà avec cet ergaster qui a quand même été le point de départ. Donc, il y a à peu près 1 million d'années où on a vraiment un saut important. Et ça s'est développé, bien sûr, en Europe, quand les humains sont sortis d'Afrique, qu'on peuplait l'Eurasie, qu'on peuplait l'Europe, qu'on peuplait l'Asie. Et là, c'est intéressant parce que justement, ils ont dû s'adapter à un changement d'environnement. Ils ont mangé d'autres animaux, hein, des mammouths, des bisons et ça. Donc, ils se sont adaptés à cet environnement qui était quand même très froid pour l'Europe. Et les plantes étaient assez rares, donc ils ont compensé par manger beaucoup plus de viande, sans doute, que quand ils étaient en Afrique.
Marilène Patoumatis, vous êtes une grande spécialiste de l'homme de Néandertal et une spécialiste du mammouth. Le mammouth, pour vous, c'était le garde-manger par excellence.
Oui, c'est vrai que quelque chose qui est très important de voir, c'est que l'animal, c'est un ensemble de ressources. Pour eux, pour les Néandertaliens et nos ancêtres directs, les Cro-Magnons, pour eux, c'est un ensemble. Et le mammouth, notamment pour les peuples qui vivaient en Europe centrale et orientale, pour les Néandertaliens de ces régions, le mammouth, c'est fondamental parce qu'il apporte énormément de viande. Voilà, il suffit d'avoir un mammouth, on en a pour des semaines, hein, parce que c'est des petits groupes. Et il y a non seulement, bien sûr, toute la viande, mais il y a aussi la fameuse graisse dont on parlait tout à l'heure. Et la moelle dans les os, donc c'est important. Et dans des régions un peu plus occidentales, comme chez nous, on a le bison ou le renne, qui était aussi comme le mammouth, qui était vraiment un animal à tout faire, qui fournissait tout ce dont on avait besoin à l'époque.
Marilène Patoumatis, dans un instant, on parlera de la viande nourriture du corps, mais aussi de l'esprit. Vous êtes d'accord ?
Ça oui.
Ils ont franchi la frontière, on leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer, cette qualité de lumière, propre aux pays aurifères. Et forêt de conifères, border les premières sphères, pour arriver lent leurs frères. Dont la peau bleue s'éclaire, à la vue des nouvelles mers, des nouveaux pères de leur terre. Soudain, il n'y avait plus de frontières, ils l'avaient enfin trouvé. Le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais. Thank you. captait sous l'atmosphère de grands ballons d'éther, cœur de silence dans la clairière. Les enfants solitaires savaient se cacher derrière l'air, derrière un brin de bruyère. Des femmes aux saris ocre incendiaires défilaient tête nue et fière près d'androgynes centenaires. Oh, 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 quatrième millénaire, il n'y avait plus de mots pour guerre, il n'y avait plus de mots pour guerre. Soudain, il n'y avait plus de frontières, il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières, il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais.
C'était Wendy Martinez, Le Pays Imaginaire.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
La production de la viande est cependant un problème extrêmement important, puisqu'on peut estimer à 2 millions de tonnes par an la consommation française. Il faut s'en féliciter, la consommation de la viande étant un gage de bonne santé. De nombreuses expériences ont prouvé en effet qu'elle permet de mieux résister aux maladies et qu'elle facilite aussi bien l'effort physique que l'effort intellectuel. On rappelle souvent cette parole de Müller, « Si tu veux le courage du lion, mange comme un lion. Si tu veux l'indolence de la génisse, mange comme une génisse. »
Et voilà ce que l'on disait à propos de la viande en 1953 dans l'émission « Heure de la culture française ». L'homme, en mangeant, assimile non seulement des calories, mais aussi les qualités ou les défauts supposés des aliments ingérés. Marilène Patoumatis, pour l'homme préhistorique aussi, il y a une analogie entre le mangeur et le mangé.
Moi, je pense que c'est très, très ancien. Et c'est vrai qu'on ne mange pas de la viande. On mange un animal ou on ne le mange pas.
Oui.
Et c'est ça qui est très intéressant. Parce que justement, très tôt, probablement que des animaux n'avaient pas le même statut. C'est-à-dire n'avaient pas tous le même statut de gibier. Ou même lorsqu'il y avait un statut de gibier, les relations justement pour le tuer, pour le consommer, étaient sûrement accompagnées de rituels. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on voit chez presque tous les peuples chasseurs-cueilleurs. Donc ça, c'est intéressant. Et très vite, je me suis posé la question sur certains animaux qui étaient très abondants dans l'environnement et qui, en fin de compte, étaient très peu présents dans l'assiette, j'allais dire, dans l'alimentation de ces hommes-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que probablement, ces relations entre certains animaux et les humains, notamment les Néandertaliens, par exemple, eh ben déjà, c'était une relation très particulière, qui n'était pas seulement liée à l'abondance de viande qu'ils pouvaient récupérer. Il y avait tout de suite déjà, il est bon à manger, d'accord, mais il est aussi bon à penser.
Est-ce qu'on peut parler du goût ? Est-ce que c'est facile de parler du goût de nos ancêtres ?
On peut toujours en parler, mais je crois que pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui montrerait qu'il y a une existence de goût. Moi, je parle plus en termes de tradition. C'est-à-dire que moi, j'ai été frappée dans mes études de voir que autour d'un site que j'étudiais, quand on fait l'environnement, il y a par exemple certaines espèces animales qui étaient présentes, qui sont faciles à chasser, pas plus difficiles. Et non, on s'aperçoit qu'il y a eu un choix. Et ça, déjà, pour moi, ça montre peut-être... Alors, du goût, je ne sais pas s'il pourrait faire la viande de cheval à la viande de renne. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Et sinon, on peut penser, bien sûr, qu'avec les herbes qu'il y avait, on peut ajouter ça à la viande, on peut tout imaginer. On sait qu'ils faisaient de la viande fumée, séchée, fumée, puisqu'on a des traces sur les os qui montrent qu'on enlevait la viande. et puis qu'on la mettait à fumer au-dessus d'un foyer, notamment composé d'os d'ailleurs. Donc il y a ça, il n'y a pas seulement la viande crue, on cuisait. À partir de 500 000 ans, on cuit les aliments. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre la possibilité aussi de certains aliments qui étaient un peu toxiques, comme certaines plantes qui étaient toxiques crues. Et ce changement, elle, là, va être une phase importante parce que la cuisson des aliments va aussi modifier l'organisme, le métabolisme. C'est plus facile, une viande cuite à digérer. Et aussi, surtout, ça va permettre la gracilisation du visage. Puisque vos masséters, vous savez, les muscles qui vous servent à mâcher, vont être moins développés. Donc, les mâchoires vont être plus graciles, ce qu'on appelle la gracilisation. Donc ça joue vraiment son importance, à mon avis, ce changement d'alimentation.
Marilyn Patoumatis, on la cuisait comment, la viande? On la mettait sur des pierres, sur des foyers, on la faisait bouillir, qu'on cuisait?
Oui, je pense que déjà, très tôt, on peut envisager tout ça. Et par exemple, sur le fait de faire comme une espèce de méchoui. Ça, on l'a mis en évidence. Moi, j'ai travaillé sur du matériel où on avait des os qui montraient sur un os long, hein, on va prendre un fémur, pardon, qui montraient une partie sans calcination, celle du milieu, et aux extrémités, c'était calciné, c'était brûlé. Donc là, vous voyez, c'était comme le méchoui, c'était rôti. Et donc la flamme cuisait la viande, mais par contre, ça brûlait un peu les endroits où il n'y avait pas de viande ou pas beaucoup de viande. Donc nous, on voit très bien que ces os peuvent montrer qu'il y avait une espèce de rôtisserie à ce moment-là.
Vous en avez retrouvé beaucoup, des sites?
Énormément. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que ces comportements qu'on appelle de subsistance, ces comportements alimentaires, on a beaucoup, beaucoup d'éléments maintenant. Des éléments à la fois sur le matériel, les vestiges, les outils. On fait des tracéologies sur les outils qui nous permettent de voir ces outils, ont permis à découper la viande. On a les os, évidemment, qui portent les stries laissées par le boucher de cette époque-là. On a ces méthodes biogéochimiques dont je vous parlais. On a toutes les micro-traces sur les dents qui mettent en évidence qu'on consomme plus de viande ou d'aliments rigides, un peu durs et tout, qui laissent plus de marques. Bref, on a plein de méthodes et c'est ça qui est intéressant.
Marilyn Patoumatis, pour terminer cette partie, on va partir à la Renaissance. À cette époque, on mangeait sa viande avec les doigts et je n'ai pas pu m'empêcher de vous proposer cet extrait de Gargantua de François Rabelais.
Cela dit, on prépara le souper et en supplément, on fit rôtir 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevreaux de l'été, 95 moutons, 300 cochons de lait au beau jus de raisin, 220 perdrix, 700 bécasses, 400 chapons du loup, du noix et de la cornouaille, 6000 poulets et autant de pigeons, 600 gélinottes, 1400 chaponneaux. Pour la venaison, on ne put s'en procurer aussi rapidement. À part 11 sangliers qu'envoya l'abbé de Tupernay, 18 bêtes rousses que donna le seigneur de Grandmont, et aussi 140 faisans qu'envoya le seigneur des Essarts, plus quelques douzaines de ramiers, d'oiseaux de rivière, de sarcelles, de butor, de courlis, de pluviers, de francolins, de bernaches cravants, de chevaliers gambettes, de vanneaux, de tadornes, de spatules, de hérons, de héronaux, de poules d'eau, d'aigrettes, de cigognes, de canepetières, de flamants orangés, de terrigoles, de dinde, avec force couscous et des potages en abondance.
Lecture Jérôme Boulet, c'était Gargantua, donc on a mangé beaucoup de viande dans des temps très anciens. Au Moyen-Âge, il y a eu des époques où on mangeait de la viande. Est-ce que c'est une raison pour continuer à manger de la viande, Marilyn Patoumatis?
Non, je pense que c'est tout à fait différent. On ne peut pas comparer notre époque avec ces époques anciennes où cette nourriture était indispensable. Elle était vraiment indispensable, surtout dans certaines périodes et dans certaines régions comme l'Europe glaciaire. Là, les plantes qu'il y avait, malheureusement, étaient complémentaires, mais elles n'apportaient pas assez de protéines, de calories, donc pour les nourrir ces peuples. Donc là, c'est vraiment différent. Et surtout, nous n'avons pas les mêmes activités. Ces peuples-là dépensaient beaucoup plus de calories par jour et donc avaient besoin de plus de 3000 ou 4000 calories. Alors je ne crois pas que nous, avec nos activités quand même beaucoup plus sédentaires, qu'on ait besoin de cette viande. Et même au niveau éthique, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on constate, c'est qu'on n'a pas, à ces périodes-là, je parle bien sûr surtout les Néandertaliens et les premiers hommes modernes, on n'a pas de massacre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a une bête ou deux qui est abattue pour l'ensemble du groupe, chez des groupes une cinquantaine de personnes, mais on n'a pas des abattages massifs. C'est pas d'un seul coup ce qu'on verra après, malheureusement, dans certaines régions, avec l'abattage des bisons en masse, etc. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est utile, et on va pas massacrer les animaux en plus, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est pensé en relation à l'animal, à la nature, parce que l'animal, grâce à l'animal, on est là. Parce que l'animal, il fournit tout. C'est pas seulement, là, on a parlé de la nourriture, mais c'est grâce aux animaux qu'ils ont pu se vêtir, donc ils ont pu peupler justement les régions plus froides. Se vêtir, ils ont fait tout avec, par exemple, les collets, les liens et tout pour piéger les animaux, les cordes, pour, eh ben ils ont utilisé les tendons des animaux, les nerfs des animaux. Donc vraiment, c'est une ressource globale, fondamentale, et je crois que c'était pour eux, à mon avis, un bien. Ils étaient probablement considérés comme des biens à respecter, parce que grâce à eux, ils vivaient.
Et dans un instant, nous parlerons du regard que nous portons sur la viande aujourd'hui, avec notamment la philosophe Florence Burga.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir. Avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
Numéro 728-120, ça date de 1999, c'était Philippe Catherine.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Lorsque le malheureux bœuf recevait le coup de Merlin entre ses cornes et tombait sur les genoux, j'admirais simplement la force du boucher et la victoire de l'homme sur la bête. La mise à mort des porcs me faisait rire aux larmes parce qu'on les tirait par les oreilles et qu'ils poussaient des cris stridents. Mais le spectacle le plus intéressant, c'était l'assassinat du mouton. Le boucher lui tranchait élégamment le gosier tout en continuant une conversation avec son assistant et sans accorder la moindre attention à ce qu'il faisait. Quand il en avait égorgé 3 ou 4, il plaçait les cadavres, les pattes en l'air, sur des sortes de berceaux. Puis, avec un soufflet, il les gonflait prodigieusement pour décoller la peau de la chair. Je croyais qu'il essayait d'en faire des ballons et j'espérais les voir s'envoler.
Extrait de « À la gloire de mon père » de Marcel Pagnol, un texte qui ne doit pas trop plaire à Florence Burga, philosophe, directrice de recherche à l'École normale supérieure. Bonjour Florence Burga.
Oui, et je crois qu'il n'a pas plu non plus tellement à Marilène Patou-Matisse.
C'est assez dur, hein. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
Eh bien écoutez, pour moi c'est effectivement quelque chose de pénible parce que j'imagine la scène se déroulant du point de vue des animaux qui est évidemment pas du tout celui du narrateur ici qui finalement voit cette scène comme s'il s'agissait d'objets inanimés qui devenaient un peu ridicules, qu'on transformait et qui n'entend pas le cri du cochon comme étant évidemment le dernier appel mais comme quelque chose de risible.
Alors, faut-il manger des animaux? Pour vous, non. Et qu'est-ce qui a été décisif dans votre vie?
Alors, écoutez, je ne parlerai pas de moi, si vous voulez bien, mais expliquer peut-être que cette question est très ancienne et que la décision de ne pas manger de viande n'est pas quelque chose de contemporain qui a surgi récemment dans des milieux aisés, des sociétés aisées, mais que l'histoire des idées montre que l'Antiquité gréco-romaine a posé déjà toutes ces questions. Et nous disposons notamment de deux textes fondamentaux à cet égard, et même fondateurs. Le livre du philosophe Plutarque, 1er siècle de notre ère, « S'il est loisible de manger chair, est-il permis donc de mettre à mort les animaux pour les manger ?» Et ce texte est fondateur dans la mesure où la tradition va le reprendre, le citer, et Rousseau notamment longuement dans son traité « Émile ou de l'éducation ». Et puis il y a un autre texte tout à fait capital pour qui s'intéresse à ce débat et à son ancienneté, c'est le traité de l'abstinence du philosophe antique Porphyre, 4e siècle de notre ère, qui récapitule tous les débats autour de la mise à mort des animaux.
À propos de la mise à mort des animaux, je vous propose un reportage réalisé dans un abattoir, diffusé sur France Inter le 24 juin 1964.
Nous sommes dans la bouverie de l'abattoir. Les animaux sont classés par catégorie. Ils passent dans cette bouverie environ 300 bœufs par semaine, 350 à 400 veaux et environ 300 moutons. Alors vous voyez, là, les animaux rentrent par le couloir d'approche qui va au poste d'abattage. Hein. Là, la bête est actuellement en attente d'être abattue. Elle ne se rend compte de rien, étant donné qu'elle ne voit pas du tout ce qui peut se passer à droite à gauche. Vous allez entendre le bruit du pistolet qui l'abat. La bête ne souffre absolument pas. Là, la bête s'est écroulée. Elle va être montée pour être saignée, suspendue. Et là, vous entendez actuellement la scie mécanique qui sépare la carcasse en deux.
C'était en 1964. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé depuis, Florence Burga.
Non, ce qui a changé, c'est qu'on tue de plus en plus d'animaux, beaucoup plus encore qu'en 1964, mais selon les mêmes méthodes. C'était le début, en fait, la première loi en France qui imposait l'étourdissement avant l'abattage, et donc, en l'occurrence, pour les grands bovins, ce pistolet d'abattage. Alors, ce que la personne évoque, c'est le fait, la personne dit que les animaux ne se voient pas, mais il y a l'odeur. Et l'odeur du sang pour les herbivores, on le sait bien aujourd'hui, est quelque chose de particulièrement angoissant, puisque ce sont des animaux qui mangent de l'herbe. Donc cette odeur du sang a quelque chose de particulièrement générateur d'une anxiété. Ils sont évidemment dans une situation tout à fait particulière.
Alors la question, pourquoi est-ce qu'on mange de la viande aujourd'hui alors qu'on pourrait s'en passer ?
Oui, c'est la question dont je suis partie pour ce livre « L'humanité carnivore » et pour lequel je m'étais beaucoup passionnée d'ailleurs pour la préhistoire. Et je crois que, comme Marilène Patou-Matisse l'a montré, cette question de l'alimentation, nous devons toujours l'inscrire dans un contexte historique, géographique, social. L'humanité a finalement expérimenté des tas de régimes, que ce soit sous l'effet de la contrainte, de contraintes climatiques par exemple. On imagine bien que dans le Grand Nord, où les végétaux ne peuvent pas être cultivés, eh bien on comprendra pourquoi évidemment ces populations attendent le passage des troupeaux de rennes comme étant leur seule viatique pour survivre. Aujourd'hui, la question est bien différente. Et donc, l'argument selon lequel il y a une nécessité absolue à manger de la viande, comme si nous n'avions pas de connaissances en nutrition, ou comme si nous n'avions pas aujourd'hui les protéines végétales. Donc, jamais l'humanité n'a été aussi libre qu'aujourd'hui de choisir son régime. C'est pourquoi on peut poser plus clairement que par le passé la question « Pourquoi l'humanité est-elle encore carnivore ?»
Et quelle est votre réponse ?
Alors ma réponse, c'est que il ne se joue plus, bien évidemment, la nécessité de trouver ces fameuses protéines, puisque nous savons les trouver ailleurs. Mais on voit bien que dans cette opération où se joue donc quelque chose de différent d'une nécessité biologique, il en va du statut de l'humain et du statut des animaux. Effectivement, à partir du moment où de manière très massive, et pas du tout comme Marilène Patou-Matisse l'évoquait chez les Néandertaliens, où l'on ne voit pas ces grands massacres, il y a là évidemment une mainmise sur les animaux que nous souhaitons conserver par la manducation. La manducation est une mainmise particulière, parce que tuer est une chose, mais aussi absorber et excréter. Donc il y a, je crois, dans cette opération de manducation qui nécessite la mise à mort, de quoi nous faire réfléchir à notre statut lorsque nous faisons face à autant de résistance aujourd'hui.
Quand vous dites menducation, c'est manger.
C'est manger.
Alors on est souvent ému ou touché devant des animaux et pourtant, comme vous l'expliquez, on n'hésite pas à les mettre dans notre assiette. Par parenthèse, on le fait aussi par goût, je pense.
Bien sûr.
Depuis une quinzaine d'années, Jocelyne Porcher, qui est une ancienne éleveuse et qui est devenue sociologue, essaie de faire tenir ensemble ces deux idées a priori contradictoires. Oui, on peut aimer les animaux, mais oui, on peut les tuer pour les manger.
Aimer les animaux, c'est pas n'importe quels animaux, dans n'importe quelles conditions. Là, on parle des animaux de ferme et on parle d'un des produits qu'on consomme. Alors, moi, j'insiste sur le fait que manger de la viande, c'est pas seulement lié à la production d'animaux pour la viande, c'est aussi lié à la production laitière. Une grande partie de la viande qu'on trouve dans les linéaires, ils sont issus de la production laitière. Manger de la viande, oui, mais pas seulement. Manger de la viande, manger des produits animaux. Est-ce qu'on peut, voilà, moi là, je poserais plus la question comme ça, comment s'articule le fait pour les éleveurs et pour nos concitoyens d'aimer les animaux et de consommer des produits animaux, de la viande, du lait, etc. Alors après, pour ces animaux dont on sait qu'on va les abattre à la ferme, les emmener à l'abattoir, l'enjeu, c'est de leur donner une belle vie, la vie la meilleure possible, de leur naissance à leur mort, pour que l'abattage des animaux se situe, alors moi je l'ai décrit dans le cadre d'un système de dons et de contre-dons, mais donc qu'on donne la vie des animaux, on leur donne la mort, et il faut que ce soit en contrepartie d'une vie la meilleure possible pour les animaux. Alors l'enjeu après, c'est comment on donne la mort. C'est beaucoup plus cette question-là qui fait problème aux éleveurs d'ailleurs que le fait de donner la mort elle-même, puisque c'est une partie du travail des éleveurs de décider de la mort des animaux.
D'après vous, est-ce qu'on peut imaginer une vie sans animaux de ferme ?
Pour moi, la domestication, c'est ce qui est arrivé de meilleur aux humains. D'ailleurs, vraiment, pour moi, on ne serait pas humain sans les animaux. Et donc, cette disparition programmée des animaux de ferme, de mon point de vue, elle est tragique. Elle est tragique parce que c'est des animaux avec qui on existe depuis 10 000 ans, qui nous ont construits, qui nous ont éduqués. Il faut voir tout ce que, grâce aux animaux, on a pu faire. On a pu voyager, on a pu se nourrir, on a pu s'habiller, on a pu réfléchir. Ça nous ouvre sur un monde différent. Donc évidemment, ça serait tragique. Vivre sans les animaux de ferme, c'est une tragédie humaine.
Alors l'animal serait devenu une industrie, une machine à produire. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence Burga ?
On abat 3 millions d'animaux par jour en France. Ce sont des animaux qui sont de toute façon engraissés dans des bâtiments. Personne ne les voit, on ne fait que les manger. On a cessé de manger un certain nombre d'animaux. Ils n'ont pas disparu pour autant. Ils sont devenus des animaux de compagnie, des animaux sauvages. Il y a des gens qui ont des moutons dans leur propriété qui ne les mangent pas. On pourrait tout à fait imaginer un autre rapport aux animaux qui ne se termine pas dans le sang. Il me semble qu'il y a un vrai problème là d'imagination d'une relation. Donc ça n'est pas parce qu'on ne mange pas les animaux que ces animaux doivent disparaître, qu'ils doivent être en nombre moins important pour avoir des conditions de vie qui soient bonnes. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec cette idée.
Florence Burga, Marie-Hélène Patoumatis, on se retrouve dans un instant, mais je vous propose un court extrait de La vie d'une vache de Juan Pablo Meneses. Ça date d'avril 2022.
À ce moment-là, j'avais du mal à penser la négra comme une simple ouvrière qui transformait l'herbe en steak. Les vaches ne sont pas des machines. Mais si jamais on veut faire de l'argent avec, on est forcé de les considérer comme telles. Certains vont un peu plus loin et sont capables d'envisager la viande comme la pièce d'une voiture.
You.
Anid Yayaba, on écoutait Doudou Tassa et Johnny Greenwood.
Les aventuriers sur France Inter.
Sur le trottoir opposé, d'autres camions déchargés des veaux entiers, emmaillotés d'une nappe, couchés tout du long comme des enfants, dans des mannes qui ne laissaient passer que les veaux plus pâles, tachés de jaune par la graisse et les tendons, le ventre ouvert. Il passa au carreau de la triperie. Parmi les têtes et les pieds de veaux blafards, les tripes proprement roulées en paquets dans des boîtes, les cervelles rangées délicatement sur des paniers plats, les foies saignants, les rognons violâtres, les culs des charrettes ouverts montraient des chapelles ardentes, des enfoncements de tabernacles. Dans les lueurs, quatre moignons écartés et saignants.
Extrait du Ventre de Paris d'Émile Zola, paru en 1873. Oui, on parle de la viande avec Marilène Patoumatis, préhistorienne, et Florence Burga, philosophe. Florence Burga, jusqu'au milieu du 19e siècle, les animaux sont abattus et vendus dans la rue. Mais à partir de 1850, les premiers abattoirs sont construits.
Oui, effectivement, et les raisons sont doubles. Premièrement, ce sont des raisons d'ordre hygiénique, puisque, comme le rapporte un certain nombre d'auteurs, bon là on a Zola, Le Ventre de Paris, antérieurement c'est les tableaux de Paris, Sébastien Mercier, qui sont bien connus. Le sang dégouline dans les
caniveaux.
Dans les caniveaux. Mais aussi, il y a cette idée très importante au milieu du 19e siècle, selon laquelle la banalisation de la violence envers les animaux contribue à une banalisation de la violence tout court. C'est-à-dire des humains entre eux, puisque c'est une seule et même pulsion, évidemment, cette violence.
Y compris dans les foyers.
Y compris dans les foyers, bien sûr. Et donc, l'idée va être aussi de cacher, non pas tellement d'adoucir la mise à mort des animaux, mais de la cacher. Et donc, de créer ces lieux qui, à la fois, vont résoudre des problèmes hygiéniques et aussi dissimuler la violence.
Marilène Patoumatis, le statut de l'animal, même dans nos assiettes, a changé depuis la préhistoire.
Oh oui, ça c'est
énorme.
C'est énorme. C'est énorme. Mais alors, a changé, mais je suis pas sûre que ça a changé en bien. Enfin, là, je sais pas si je vais bien me faire comprendre. Je pense que peut-être les humains préhistoriques avaient peut-être un rapport à l'animal qui était mieux que la plupart de nos contemporains. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu de l'hypocrisie. Alors, on veut plus voir l'animal, on veut plus voir le tuer. On veut même plus le voir sur les étals. C'est-à-dire qu'on voit, simplement des morceaux, des steaks emballés. On sait même plus que derrière il y a
la tête de veau, la tête de veau avec du persil terminé, dans les oreilles,
c'est fini. Terminé. Mais même maintenant, les bêtes sauvages, hein, les lièvres et autres qui étaient suspendus aux périodes de chasse, c'est terminé, on peut plus. Je crois que c'est un peu hypocrite. C'est-à-dire que, je parle pour la plupart des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des réactions très importantes, et je crois tout à fait justifiées, sur le fait qu'il faut arrêter cette hypocrisie, de dire, oh là là, oui, on aime bien les animaux et tout ça, mais voilà, on va essayer de bien les tuer. Mais à côté de ça, on voit que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une énorme consommation de viande qui proviennent d'animaux qui sont maltraités. Je veux dire, voilà, on parlait tout à l'heure des petits éleveurs, c'est pas le cas du tout de la majorité. Et alors, du coup, on veut pas faire souffrir, mais on va manger beaucoup de hamburgers. Vous voyez, il y a une espèce de... C'est un peu schizophrène comme position. Donc, ça a évolué, mais pas forcément dans le bon sens.
La viande commence à avoir mauvaise presse. On dit que c'est mauvais pour le climat, on dit que c'est pas forcément bon pour la santé, de trop en manger. Et pourtant, vous nous avez expliqué que nos lointains ancêtres ont mangé de la viande et que ça a contribué à notre évolution.
Ah oui, mais je pense que là, il faut se remettre dans le contexte. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que là, vous aviez déjà énormément de troupeaux d'animaux. Il y avait vraiment abondant d'animaux sauvages et qu'il y avait un prélèvement par les humains de l'époque, d'abord petit, et ensuite avec cette nécessité. Parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à un certain moment, et c'était important, comme je disais tout à l'heure, pour autre chose que la viande. Donc là, c'est pas parce que nous avons été des mangeurs de viande, parce que ça, faut pas le nier non plus. Il y a des sociétés, à mon avis, qui étaient moins carnivores que d'autres, mais à un certain moment, on a vraiment été avec un régime carnivore important. C'est pas parce qu'on était comme ça qu'il faut le demeurer, et surtout, faut voir que les activités sont différentes. On peut pas comparer le besoin en énergie, en calories, donc en aliments, notamment en viande, de nos ancêtres qui se déplaçaient en permanence, qui devaient se réchauffer, si j'ose dire, d'une façon assez naturelle. Bon, voilà, il y avait une dépense d'énergie extrêmement importante.
Et on sait combien de calories ils consommaient par jour? Est-ce qu'on a une idée?
C'est-à-dire qu'on pense que pour vraiment avoir... c'est des hypothèses, là.
Oui,
on tombe dans l'hypothèse. On a calculé pour la dépense, enfin, on fait quand même des calculs, une dépense énergétique pour une chasse, pour aussi se réchauffer, etc., que c'est un minimum de 3000 à 4000 calories par jour. Donc, il faut la porter. C'est pour ça
deux fois plus qu'aujourd'hui.
C'est ça. C'est ça, mais parce que c'est pas du tout les mêmes activités. Et ça, c'est important de voir, parce que dès qu'il va y avoir le néolithique, on va en consommer au départ beaucoup moins. C'est-à-dire que l'agriculture va permettre d'avoir ces céréales, va permettre d'apporter une alimentation végétale. On le voit là aussi dans les études biogéochimiques, qui va être beaucoup plus importante. Et la viande va commencer à perdre un peu, même s'il y a l'élevage. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ça. C'est à la fois le besoin que nous avons au niveau des calories et nos ancêtres, on va dire, préhistoriques, ça n'a rien à voir.
Alors, je vous propose un reportage réalisé en 1954 à l'abattoir de La Villette. Je ne sais pas encore une fois si ça va vous plaire à toutes les deux.
La Villette, c'est un village. Nous avons le tueur, nous avons celui qui dépouille, nous avons celui qui vend sa viande et aussi le cinquième quartier qui comporte les cuirs, les boyaux et le cinquième quartier, mon rayon, la triperie en gros.
Je suis allé me promener avec Madame Gina dans La Villette un petit peu avant cette interview. Madame Gina m'a emmené dans les échaudoirs où l'on dépouillait les agneaux. Eh bien, quand elle est arrivée à l'entrée de l'échaudoir, elle a dit « Bonjour !» et tous les travailleurs lui ont répondu « Bonjour !»
Oui, c'est une habitude.
Elle les appelle ?
Elle les appelle mes hommes.
Ses hommes. Et encore ?
Mes agneaux.
Mais dites-moi, est-ce que tout de même de voir ces petits agneaux, la gorge ouverte, sanglant, est-ce que vraiment...
Mais vous savez, je pense et je ne regarde pas.
Ah,
c'est moins possible.
C'est exactement ce que j'ai constaté. Vous ne regardiez pas.
Oui.
Non, elle ne veut pas regarder la dame. On la comprend. Florence Burga, le statut de l'animal est en train de changer quand même, non ?
Alors écoutez, on peut dire que cette question est apparue dans le monde académique. Il y a de plus en plus de travaux qui sont consacrés à cette question, aussi bien sûr en philosophie depuis longtemps, mais en droit, en économie, en sciences humaines. On peut dire aussi que les médias se font l'écho de ces débats, en nous invitant par exemple.
Il y a des lois aussi.
Alors les lois, elles évoluent extrêmement lentement. Il faut tout de même dire que la modification du Code civil en 2015 n'a eu aucune espèce d'incidence, puisque le législateur a donc attendu 2015 pour dire que les animaux étaient des êtres vivants doués de sensibilité, encore que cette mention apparaissait dans le Code rural dès 1976, mais le législateur aussitôt a rappelé que les animaux restaient soumis au régime des biens, donc des choses appropriables et destructives. Un bien, c'est une chose qu'on peut s'approprier, mais aussi qu'on peut détruire. Donc rien n'a évolué, si ce n'est des toutes petites choses à la marge.
Il n'empêche que quand on fait souffrir un animal, on est passible de prison, d'amende.
Oui, alors ça, on peut dire que c'est depuis la loi Gramont. Bien sûr, les peines ont été augmentées. Il faut regarder ce qu'en font les juges. Il faut regarder le nombre de plaintes qui sont retenues, les suites qui leur sont données. Or, lorsque l'on s'appuie sur les statistiques du ministère de l'Intérieur, nous voyons que les peines sont extrêmement basses, alors que le législateur a prévu des peines plus importantes, donc les juges ne suivent pas. Et il faut rappeler aussi, toujours d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, qu'en 4 ans, les actes de cruauté envers les animaux, là on ne parle pas des animaux d'exploitation, mais des animaux de compagnie, ont cru de 30%. Donc il y a quelque chose de paradoxal, à la fois une évolution du débat sur le statut des animaux et en même temps cet accroissement des mauvais traitements et des actes de cruauté. 30% c'est beaucoup et ce n'est calculé qu'à partir des faits qui sont portés à la connaissance des institutions.
Marilène Patoumatis, un mot sur le statut de l'animal ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que le statut de l'animal a beaucoup varié, est très différent selon les sociétés, selon le regard porté, parce que regardez, il y a une grande partie de l'Asie, notamment je pense à l'Inde évidemment, mais d'autres sociétés qui étaient tout à fait même végans, hein, pas seulement végétariens. Donc ça a beaucoup varié, le statut a beaucoup varié, et l'animal a quand même été divinisé aussi.
Hein. Oui.
Donc, mais ce qui est un peu difficile actuellement, je crois qu'il faut faire très attention aussi, c'est à la brutalité des choses. C'est-à-dire qu'à la fois, nous avons une brutalité vis-à-vis des animaux dans ces abattages massifs et ces exploitations qui sont absolument terrifiantes. Et de l'autre côté aussi, il faut faire attention aux petits éleveurs. Là, je vais revenir sur ce que tout à l'heure Jocelyne Porcher disait. Et c'est vrai que là, ça peut être brutal. C'est-à-dire, comment faire cette transition, essayer de transformer ça, j'ai pas de réponse. Mais je crois qu'on peut pas non plus brutalement dire à tous ces éleveurs, comment leur dire, maintenant, d'un seul coup, c'est terminé. Vous voyez, il y a une transition à faire. Il faut qu'on réfléchisse justement sur cet autre monde que vont faire, mais avec eux. C'est-à-dire qu'on peut pas aussi, d'un seul coup, les faire passer pour des affreux qui n'aiment pas leurs animaux. Vous voyez, et je pense que c'est ça aussi la difficulté. Vous dites, ça n'a pas beaucoup progressé. Et c'est vrai parce que je crois qu'il y a aussi ça. Et comment faire passer l'idée que petit à petit, en fin de compte, on peut transformer nos relations à ces animaux.
Florence Burgat, comment justement transformer cette relation qu'on a avec les animaux?
Peut-être il faut rappeler que l'élevage est industrialisé à 96% en France, alors avec d'une manière différente selon les espèces, et que donc les éleveurs dont vous parlez représentent 4%. Par ailleurs, il faut quand même dire que c'est pas parce qu'un élevage est petit que les animaux sont forcément bien traités. Bon. Et puis, il y a de toute façon le fait d'élever les animaux pour la boucherie, c'est la mise à mort en bas âge. Donc, tout ça sont des questions qui demeurent, même si, bien sûr, je pense que tout le monde est d'accord pour avancer vers des modes d'élevage différents. Mais comme vous le disiez, on ne peut pas à la fois vouloir manger de la viande toute la journée et déplorer l'élevage industriel.
Eh bien, merci Marie-Hélène Patoumatis, merci Florence Burgat. C'est la fin de cette émission. Pour terminer, voici ce que l'on pouvait entendre sur les radios commerciales en 1971. Écoutez ça, il fallait oser.
Une entrecôte, je suis une entrecôte, avec Astra, jamais de gras. Pour la cuisson, c'est mieux avec Astra.
Des entrecôtes, nous sommes des entrecôtes. Pour la cuisson, c'est mieux avec Astra.
Merci à Marie-Hélène Patoumatis, qui est par ailleurs la conseillère scientifique de ces aventuriers consacrés aux animaux. Et merci à Florence Burgat, dont le dernier livre, L'inconscient des animaux, est paru au Seuil et qui a un petit conseil de lecture à nous donner.
Eh bien, je conseille la lecture du livre de Marie-Hélène Patoumatis, Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours, qui est réédité en poche dans la collection Tempus.
Cette émission est réalisée par Jérôme Boulet, attaché de production Caroline Prota. La programmation musicale est signée Djoubaka. Samedi prochain à 14h, nous parlerons de la santé. Les animaux savent trouver dans la nature ce qui les soigne et si on s'en inspirait. Mais vous pouvez déjà écouter cette émission puisque toute la série est disponible en podcast sur l'appli Radio France.